si vous le voulez. J'espère que vous avez tous éteint vos téléphones. Je ne l'avais pas dit ce matin, mais je pense que vous l'avez fait naturellement. Et nous allons donc continuer cette journée qui est d'ores et déjà passionnante par Hélène Kuschmann, qui est agrégée de lettres modernes, docteur de la Sorbonne en littérature française. Sa thèse intitulée « La nuit dans l'œuvre de l'exil de Victor Hugo, texte et dessin » a été commencée sous la direction de Claude Millet à l'université Paris-Cité et achevée sous celle de Didier Philippot. Spécialiste du romantisme, elle a notamment participé au numéro de Romantisme sur le ciel et à un ouvrage collectif sur l'obscurité, à tâtons, à paraître aux éditions des presses universitaires de Rennes. Elle est depuis 3 ans à terre, donc attachée...
temporaire d'enseignement et de recherche.
Merci. En littérature du XIXe siècle à Le Mans Université, où elle donne également des cours portant sur le théâtre et sur les relations entre texte et image.
Merci beaucoup. Alors, pour commencer, comme cette présentation l'annonce, je suis plutôt spécialiste de Victor Hugo, donc je m'excuse déjà auprès des audibertiens ou audibertiennes si mes hypothèses vous semblent discutables, et je suis tout à fait là pour les discuter, donc n'ayez pas peur de me dire que peut-être je me trompe sur certaines choses. Ce qui m'a interpellée quand j'ai commencé à lire Audiberti, c'est la manière dont il se réfère sans cesse au travail de la langue, au travail poétique, comme à un travail fait sur une matière. Je cite Miroir, le texte qui précède La pluie sur les boulevards, qui doit être vraiment bien connu pour la majorité d'entre vous, une citation très célèbre. Les théopes, dont on a déjà pas mal parlé, ne sont arrangés dans les écrivains-écriveurs qu'en raison de leur apparente similitude sociale avec eux et de l'identité du fourniment matériel, encre, imprimerie, papier. Il serait plus juste de les mettre avec les marqueteurs, les carreleurs, les mosaïstes, bien entendu les mages, kabbalistes et raspoutins. À l'aide d'appareils psychiques en surimpression autour de leur encrier, les théopes, en effet, juxtaposent l'un à l'autre, après bien des essayages et des repentirs, les mots. Cela, finalement, dans un dallage, un labyrinthe, un échiquier. Bon, je ne reviens pas sur le commentaire de cette citation qui a été déjà beaucoup commentée par les audibertiens, mais qui insiste donc sur l'assemblage matériel des mots. On ne s'étonnera pas que Audiberti, étant donné sa déférence vis-à-vis de Hugo, reconnaisse cette virtuosité matérielle au geste hugolien. Il écrit, là je cite une lettre rapportée par Agnès Piquel dans cet article de référence dont on a été déjà plusieurs à parler. Donc c'est une lettre à Pollan où Audiberti dit « Il me semble pourtant avec Hugo que le poète est énormément magique et paternel et que le verbe est chose solide, matière en soi, bloc à jeter contre les portes, poutre à soutenir le ciel, mortier à tailler des archanges, farine à pétrir notre vie. » Alors, qu'est-ce que ça peut signifier qu'avoir une approche matérielle au langage en tant que poète ? C'est la question que j'ai choisi donc de me poser en reprenant donc une citation d'Audiberti qui dit que écrire, faire œuvre poétique, c'est agir sur la matière alphabétique du poème. Je vais donc dans cette communication approcher cette question du matérialisme de l'écriture en me demandant donc en quoi le langage peut être matière, ce qui veut dire qu'on va devoir aborder la question des matériaux mêmes de l'écriture, encre et papier, la question aussi de la forme graphique, puisqu'il s'agit de considérer que dans un texte, il n'y a pas une traversée vers un réseau de signification, le texte ne s'abstrait pas, ne se subsume pas pour nous délivrer des sens, mais il résiste, il offre une certaine opacité, opacité qui bien sûr tient aussi sa place sur le plan du sémantisme, d'où la question de l'hermétisme qu'on sera obligé d'aborder, aussi bien concernant Hugo que concernant Audiberti. Et cette manière de conférer de la matière et donc de la présence à l'image d'encre et de papier interroge aussi sur le rapport que cette image d'encre et de papier entretient avec d'autres types d'images qui ont au XIXe et au XXe siècle tendance à avoir le monopole de la présence et de la matière, à savoir photographie et cinéma, qui sont censés être plus lestés de réalité que textes littéraires. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire que agir sur la matière alphabétique du poète ? Il me semble que ça soit Hugo ou Audiberti, là-dessus Audiberti est clairement un héritier de Hugo, ils ont une préoccupation donc, des matériaux de l'écriture, à savoir l'encre et le papier. Pour Hugo, je vais reparler d'un chapitre très connu des Misérables, Buvard bavard, qui témoigne de l'importance donc, que Hugo met en scène dans ce texte, de la matière sur laquelle on écrit. il se trouve que ce chapitre, comme l'a montré David Charles, est aussi une manière de mettre en abîme le processus même de l'écriture, puisque c'est le chapitre où Hugo reprend un travail d'écriture qu'il avait laissé de côté avant son exil. Je montre une page du manuscrit des Misérables, Buvard-Bavard, pour donner un peu l'idée de ce rapport matériel que Hugo a avec le papier et l'encre. Hein, et je renvoie donc pour le commentaire de ce chapitre et des relations de ce chapitre à la matérialité du papier et de l'encre, aussi dans les renvois au titre des chapitres, donc à cet article de David Charles, Buvard, miroir, poème, qui est disponible sur le site de la maison Victor Hugo. Chez Audiberti, on constate aussi une attention très soutenue à ce texte matière. Toujours dans Miroir, le poète 14 ans après revient sur la pluie sur les boulevards et écrit ce texte préambule. Et il écrit « Le dactylogramme de la pluie révèle à merveille l'attitude mosaïste du Théope. Véritables objets, bibelots en propre, des mots tapés ou manuscrits à même de courtes bandes de papier sont collés sur les feuilles. » Donc on voit que quand le poète revient même à son travail, il l'envisage tout d'abord, donc sous sa forme purement physique, de collage de morceaux de papier. Et il rajoute, montrant sa sensibilité à la nature même du support, « Je les reconnais, ces feuilles dont je me servais au Petit Parisien pour la rédaction de mes faits divers, les accidents d'auto, les incendies, les Kabyles étranglés, les enfants martyrs, Clamart, Malakoff, le Kremlin, la chemise, brique, porte encore l'étiquette du marchand, 0,80 francs, et à la plume deux dessins de moi, l'un se passant à gros par-dessus, gros galurin, pébroque, gigantesque soulier, l'autre une sorte Bouddha. » On voit donc que cette attitude du poète mosaïste, du Théope, qui assemble une matière, passe par cette première résistance, cette première épreuve du matériau. Et que Audiberti, quand il envisage donc l'objet littéraire, l'envisage aussi en relation avec les dessins qu'il redécouvre en quelque sorte à même le texte. J'en viens ici à mon deuxième point, qui est de la question du polygraphe et des polygraphismes. Doit-on s'étonner que des poètes dessinateurs accordent un intérêt à la langue en tant qu'elle est aussi objet graphique? Il me semble que non. Et on voit chez Hugo comme chez Audiberti cette même continuité du geste allant de l'écriture au dessin. Alors, sur Hugo, je ne vais pas rappeler l'ensemble de la critique sur le rapport texte et dessin. Je me vais juste rappeler par exemple le cas des travailleurs de la mer, dans lesquels on sait à quel point le dessin a accompagné l'écriture dans diverses étapes, à la fois en amont, à la fois en aval. On sait aussi que Hugo s'est composé son propre petit manuscrit avec des dessins réalisés dans le sillage de l'écriture des travailleurs de la mer, qu'il assemble donc même avec le texte. Mais le rapport du texte et du dessin ne s'arrête pas là pour Hugo, puisqu'il y a aussi une intégration à l'intérieur même de ces dessins, des lettres. C'est-à-dire que la lettre est aussi, pour le dessinateur, envisagée comme objet d'art. Ah oui, j'avais la citation de Liberty. Là, je vous montre un exemple d'un manuscrit de Hugo dans L'homme qui rit, pour voir à quel point on voit comme le poète passe du geste d'écrire au geste de dessiner. Mais ce qui va m'intéresser, donc ça, c'est le manuscrit des Travailleurs de la mer, la pieuvre des Travailleurs de la mer. Ce qui va m'intéresser, voilà, c'est plutôt les dessins et l'intégration du texte dans les dessins. Ici, vous avez donc le rébus amoureux à Léonie Donnet, sur lequel je ne m'arrête pas. En revanche, je vais m'arrêter un petit peu plus sur ce dessin, Ourbs. Parce qu'il me semble que dans ce dessin, on voit bien la dimension graphique de la lettre. Si vous regardez bien, vous voyez que le U de Ourbs se situe en dessous de l'arc. De la même manière, le S se situe en dessous de ce dôme. Alors ce dôme, j'avoue, je ne sais plus s'il s'agit des Invalides. Enfin, je pense que... Enfin, je ne sais plus de quel dôme il s'agit exactement. Je pense. Mais on voit en tout cas que le U et le S sont placés donc dessous, reproduisent d'une certaine manière la forme des monuments. Et ils sont placés donc sur la Seine, sur l'eau, en miroir. Et là, je reviens à Buvard Bavard. C'est comme si l'écriture de la ville, qui est aussi écriture du souvenir, puisque Hugo réalise ce dessin en exil avec le souvenir que Paris lui a laissé, se révèle dans le dessin des lettres par le dispositif du miroir de la scène à l'intérieur de ce dessin. Donc on voit à quel point la lettre se charge d'une dimension graphique de façon extrêmement intense chez Victor Hugo. Ce rapport entre lettres et graphisme a été récemment étudié par Stéphanie Boulard et Pierre Georgel. Je rappellerai quelques éléments tirés de ce livre dans Hugographie qui montre l'unité donc du geste d'écrire et de dessiner et donc la valeur graphique de la lettre à l'intérieur des manuscrits. J'allais dire de la même manière, mais tout de même un peu différemment il me semble, Audy Berthier est aussi un poète dessinateur. À la différence de Hugo, il l'assume beaucoup plus et dans sa manière de s'auto-commenter, crée beaucoup plus de relations entre sa pratique de dessinateur et sa pratique de poète. Il écrit dans La fourmi et le corps, « Saurais-je écrire si je ne savais dessiner ?» par exemple, montrant hein, la jonction de ses pratiques pour lui. Dans le cahier du centenaire, hein, l'ouvre-boîte numéro 21, on trouve des dessins d'Audy Berthier. Et Michel Giroux écrit « L'écriture manuscrite et les dessins sans cesse lancent des gestes, prolifération de courbes et de points, d'aigus et d'arrondis, cavalcade de graphes et de grammaire », montrant la façon dont il y a une sorte d'entremêlement et de continuité entre les deux gestes. Je montre une page donc prise au cahier du centenaire, cette fois-ci il s'agit bien d'Audy Berthier, et on voit à quel point dessin et texte se distinguent très peu l'un de l'autre. À quel point il s'agit du même geste, hein, c'est le même mouvement, et c'est très visible à même la page. Mais dans la poésie elle-même, il me semble que, et on l'a vu aussi ce matin avec le commentaire de VH, Audy Berthier met l'accent sur la valeur de la lettre et son existence pourvue d'une forme de matérialité. Je cite donc Messie dans Ange aux entrailles. Le vent chargé de mots que nul ne surpasse charme ma face. Il luit une lettre au coin net, luira-t-elle longtemps sans que l'azur en fait se fende et que Dieu crève sa carapace. Écoutez, le temps vient, l'éclair brise l'espace, mais les sept trous du corps persistent tous les sept et la femme surgit vierge dans Nazareth. Alors, moi, ce poème, il m'a immédiatement fait penser à Nomen, Numen, Lumen dans les contemplations, hein, où les sept lettres qui tombent forment le mot Jéhovah. Et alors ces sept lettres s'accompagnent, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais dans le manuscrit des contemplations du dessin de sept étoiles. Alors pour revenir sur le texte d'Audy Berthier, il me semble que les sept lettres de Jéhovah deviennent dans Messie les sept douleurs hein, de la Vierge, de la Mater Dolorosa. N'est-ce pas une autre manière pour Audy Berthier de se placer avec un certain sens de l'humour et du ludique dans ce rapport de filiation hein, dont on a déjà parlé avec un Hugo Dieu et un Audy Berthier fils. Et c'est aussi pour moi une manière de signifier, comme chez Hugo, le souci donc, de la matérialité de la lettre, de cette matière alphabétique dont je vous parle aujourd'hui. Pour autant, et ça me semble très important puisque au milieu du XXe siècle, on peut penser, quand on envisage cet amour des lettres, aux lettristes. Hein, et en fait, on se rend compte qu'Audy Berthier a une approche tout à fait opposée. Parce que chez les lettristes, il s'agit d'atomiser, hein, c'est leur approche ciselante, atomiser le mot pour ne garder que la lettre. En réalité, chez Audy Berthier, et c'est le troisième point donc, de cette première partie, c'est le mot qui domine. Et c'est le mot objet. Les lettres composent des mots pris comme objet qui sont ce que le poète mosaïste et carreleur assemble. Alors, là-dessus, je donne des citations, mais j'imagine que les Audy Berthiens et Audy Berthiennes présents dans la salle les connaissent bien. Hein. Dans la lettre à Jean Paulhan, où Dibertier revient donc sur la matérialité du texte. Hein. Je ne considère pas que ma poésie soit chose seulement d'esprit. Je pense qu'elle est matière ondulée, dramatique, conjonction et tressage de vibrations qui parfois comportent un sens logique, littéraire, didactique, etc. Mais qui peut-être, Dieu m'entende, pourrait, si vraiment c'était possible, se suffire dans les pures limites matérielles, agir, par exemple, sur des gens qui ne connaîtraient pas le français, sur des nouveau-nés, sur des cadavres, sur des végétaux, chose architecturale magnétique. Alors, ici, on voit que c'est une sorte d'extrême, hein, c'est une extrémité de la poésie matérielle. Ce n'est pas ça que le poète fait ou qu'il défend. Hein. Lui, ce qu'il défend, ça reste quand même un rapport très fort aux mots et aux mots dans son lien à la signification. Et c'est pour ça que je trouve important d'accentuer la différence avec les lettristes. Hein. Il n'y a pas d'explosion du sémantisme du tout. On est toujours en train de parler de quelque chose. Et le poète est aussi chargé d'une mission prophétique. Et ça, on le voit aussi très bien dans le texte Miroir. Hein. J'y reviendrai plus tard, mais dans le texte Miroir, je donne la citation complète où il parle de la matière alphabétique du poème. Il dit « Reproduire l'œuvre de Dieu, c'est tout concevoir, tout recommencer, la glaise géographique, les montagnes, les holothuries, les moissons, l'histoire, les poussées périodiques, les immobiles étagères, tout par les voies d'une numération scansible, présumée analogique et chargée d'un haut transfert. » C'est accomplir cette opération dans l'ivresse d'un sentiment génétique créateur. Agir sur l'œuvre de Dieu, c'est surtout agir sur la matière alphabétique du poème, instrument supputé d'une action directe sur Dieu lui-même, au-delà de l'exercice littéraire, sans que d'ailleurs, d'une telle action, le mécanisme soit analysé, pas plus que le but n'en fût jamais défini au-delà de l'essor et de l'élan diffus. Alors, j'insiste vraiment là-dessus, cette matérialité n'est pas une sorte de réduction du langage à un pur contenu graphique, c'est pas non plus exhiber le support et abolir le sens, c'est au contraire faire de la parole poétique une parole encore plus chargée de vérité, encore plus chargée du monde, capable de recréer le monde dans une perspective qui est très proche de la perspective romantique, pour ne pas dire analogue. Cependant, le danger, en quelque sorte, de cette approche, ou en tout cas, peut-être la critique à laquelle Audiberti se confronte tout en l'assumant, c'est le problème de l'hermétisme. D'accord ? Lui-même, parlant de sa propre poésie, relie donc l'hermétisme qu'on lui reproche à la magie verbale et donc à sa capacité d'écriture matérielle. Il écrit « Et certes, ma poésie était hermétique, tant j'avais le souci de la concentration du sens dans le vocable. Je croyais, je crois toujours. » Alors, étonnamment, hein, dans cette parenthèse, on sent le doute hein, qui est à fleur, et comme vous l'avez dit ce matin, on sent que Audiberti a tout au long de sa carrière d'écrivain un rapport très ambivalent à hein, cette question de la magie verbale. Toujours est-il qu'il dit « je crois toujours à la magie verbale, je crois que le travail du poète peut produire des effets dans le monde et que de la perfection d'un texte prosodique, il peut naître quelque chose ». Donc cette matérialité, c'est ce qui permet au poète d'être prophète, de dire le monde, mais elle s'accompagne nécessairement d'un certain hermétisme. C'est là le deuxième grand point donc, de cette intervention. C'est pas uniquement considérer le texte matériellement comme objet graphique, comme objet fait de certains matériaux, mais aussi considérer la langue elle-même, le langage lui-même, comme opaque. Et cet hermétisme, il parle aussi à Victor Hugo, même si, en tout cas, il rencontre des échos chez Victor Hugo, même si c'est pas de la même manière. Par exemple, je pense pas. Enfin, je ne crois pas du tout que Hugo se revendiquerait hermétique. L'hermétisme chez Hugo, c'est plus associé à la notion du hiéroglyphe, et donc quelque chose qui est réservé à un cercle d'initiés, qui demande une opération de décodage, de déchiffrage. C'est plus une tyrannie hein, politique, ça s'associe à la tyrannie politique. C'est donc pas un terme qui est connoté positivement, contrairement à l'emploi qu'en fait Audiberti. Néanmoins, là où il me semble que Hugo a une forme d'hermétisme, ou en tout cas ce terme peut trouver un écho, c'est qu'il va considère la langue comme une chose opaque, une chose qui n'est pas immédiatement compréhensible et accessible dans tous ses sens, et notamment parce que il y a un souci chez Hugo d'accéder à l'étymologie, de retrouver à l'intérieur de la langue une sorte de langue première, primaire, originelle, qui serait plus proche du monde, qui serait directement aux prises avec le monde, et qui apparaîtrait justement dans la graphie des lettres. Et pour ça, je vais citer d'abord un texte du Voyage aux Alpes, qui est assez fascinant, dans lequel Hugo parle de l'alphabet. C'est là où on voit son rapport ambivalent même à la notion d'hermétisme et de hiéroglyphe. Dans Voyage aux Alpes, Hugo écrit « Hiéroglyphe est la racine nécessaire du caractère. Toutes les lettres ont d'abord été des signes, et tous les signes ont d'abord été des images. La société humaine, le monde, l'homme tout entier est dans l'alphabet. La maçonnerie, l'astronomie, la philosophie, toutes les sciences ont là leur point de départ, imperceptible mais réel. Et cela doit être. L'alphabet est une source. A, c'est le toit, le pignon avec sa traverse, l'arche, l'arx. Bon, je ne vous fais pas tout l'alphabet, je pense que vous avez compris l'idée. En tout cas, toujours est-il que, même si Hugo ne se revendiquerait jamais comme un auteur hermétique, il considère qu'effectivement, cette matérialité de la langue, c'est aussi son opacité, c'est un feuilletage de sens. La langue elle-même est un palimpseste de signification, mais si on remonte vers l'origine, si on remonte vers l'étymologie, on trouve un lien plus fort avec la nature, et la matérialité de la langue, c'est la matérialité aussi même de la lettre, hein, qui a son rapport directement avec les choses du monde. Pierre Georgel et Stéphanie Boulard le montrent très bien dans leur livre Hugographie, hein, auquel je vous... renvoie sur toutes ces questions, notamment le fait que le S se retrouve dans le mot serpent et lui-même la forme d'un serpent. Les lettres, alors, moi j'ai fait ma thèse sur la nuit, donc je me suis beaucoup intéressée par exemple à la lettre N. Hein. La lettre N, comme le disent Stéphanie Boulard et Pierre Georgel, c'est la lettre de l'inexorable, qui est deux fois présente dans Ananke. C'est l'avenir verrouillé, la porte fermée avec sa barre diagonale, la liberté endiguée, la montagne à l'horizon de la vallée. Du haut de ces deux jambages verticaux, un paysage sans merci domine le paysage des vivants. Donc la lettre N, elle est directement prise en fait avec le monde. La lettre est dans un rapport d'analogie avec des choses. Et c'est en ça qu'en remontant dans le langage vers la source, en passant par l'étymologie et en passant par l'exploration graphique, on retrouve une langue qui est plus motivée. Et il me semble que ce point-là est important à comprendre pour saisir ce que Audiberti entend par agir sur la matière alphabétique du poème et comprendre pourquoi cette approche physique de la lettre se distingue de celle des lettristes. Il ne s'agit pas de revendiquer une sorte d'abstraction linguistique, de valeur de la lettre purement graphique qui ne voudrait rien dire, mais au contraire de réduire l'arbitraire du signe hein, dans une perspective cratilique, de dire les mots sont fondés, les signes sont fondés et ils ont leur source dans le monde. Dans la perspective de Hugo, le X c'est le signe par excellence du mystère, hein, disent encore Pierre Georgel et Stéphanie Boulard, c'est le signe du destin, de l'inconnu, l'interrogation du sens caché, et se retrouve dans Nox, Crux, Lux. Hugo fait comme ça des listes. Et on voit que son désir d'explorer donc, les lettres s'accompagne d'un goût pour l'étymologie. Pour ça, je vous montre donc ce dessin qui donc s'appelle Knox. Et on voit que la réflexion étymologique de Hugo prend sens aussi dans le cadre de la méditation graphique, puisque ce dessin, je l'interprète comme une allégorie de la nuit qui mêle à la fois le rampant et le céleste, donc une sorte de principe transcendant et immanent. Mais on reconnaît dans l'entrecroisement ou l'affrontement du serpent et de l'oiseau un O et un X. Et donc le dessin, l'image est directement en relation avec le travail du graphisme. Et chez Audiberti, il y a une chose analogue dans le rapport à la langue, il me semble, puisque dans le texte Miroir, auquel je reviens toujours, quand Audiberti, qui lui-même a réappris à voir son texte comme un objet matériel fait de signes qui ont une valeur graphique, il s'auto-analyse. Et quel est l'exemple qu'il prend ? Il prend l'exemple du mot de chaise, qui se retrouve dans un texte, et il explique que ce mot, il faut en réalité entendre chiesa, et derrière chiesa, l'église. Et donc, il fait une remontée à l'intérieur de son propre texte, en disant ce mot qui a l'air transparent, hein, qu'on a envie de juste traverser pour voir une chaise, en réalité, il résiste à l'interprétation parce qu'il est chargé de ces sens étymologiques que le poète exhume, en quelque sorte, rétrospectivement, au moment où il écrit Miroir, 14 ans donc après la pluie sur les boulevards. Et pour continuer un peu cette réflexion sur Audiberti, mais alors c'est là où ce sont des hypothèses, grâce à Bernard Fournier et à son livre, j'ai découvert l'existence du scénario Les Belles Rencontres, hein, que vous avez exhumé dans la revue Formes et Couleurs. Et il me semble que ce scénario est vraiment passionnant par rapport à ce qu'il dit du langage et du rapport donc, de Jacques Audiberti au langage. Puisque, bon, c'est le récit hein, est assez rocambolesque. Il s'agit donc d'un garçon qui doit se marier avec une dénommée Pauline, qui rencontre une femme Aglaé, qui a des visions prophétiques hein, et qui est capable de lui prophétiser son avenir. Mais Aglaé est une comédienne qui est mariée avec un dramaturge. Et à la fin, Aglaé prophétise l'attentat du garçon devenu ministre qui se rend en fait à l'auberge des Belles Rencontres où tout le monde s'est déjà trouvé rassemblé. Et alors, ce qui est fascinant dans ce texte, c'est qu'il y a l'épée qui revient, qui traverse, le motif de l'épée traverse absolument tout le texte. Et ça commence par Pauline qui donne au garçon, j'ai oublié son nom, je ne sais même pas s'il est nommé, une page qu'elle a arrachée d'un livre, et il s'agit d'un chevalier en armure dessiné avec une épée. Et cette page arrachée, le garçon, le héros, arrache encore un morceau qui est l'épée, et cette épée, nous dit-il, se fond dans l'air. Alors comme il est en train d'écrire un scénario, je pense qu'il y a aussi un jeu de mots avec l'idée du fondu enchaîné, hein, de la manière dont ça va se fondre dans l'image. Et cette épée, ensuite, elle revient sous la forme d'une épée réelle. Et cette épée réelle, il y a des dessins dessus, des dessins qui sont aussi des signes graphiques et qui, je cite, hein, c'est une série de lignes ou de reliefs qui se transforment peu à peu par la simple magie de voir dans quelques profils ou quelques ornements d'un personnage ou d'un décor. Cette épée, on pourrait dire, je pense, qu'elle symbolise cette sorte de langage premier directement en rapport avec le monde, le langage matériel que le poète vise à retrouver hein, et qui se perd dans l'activité des écriveurs, par exemple, hein, que Audiberti méprise, et qui a commencé par être sur l'encre et le papier, pourtant dans la matière même qui est employée par les écrivains. J'en viens donc au dernier point de cette communication sur la question du rapport entre le texte comme image, finalement, et cette existence physique du texte par rapport donc à deux autres types d'images, enfin les images, disons, celluloïdes, qui sont plutôt caractérisés d'habitude du côté de la présence. Hein. On va lester de référentialité très largement les images photographiques et cinématographiques. Le référent est réel. C'est tout l'apport de la théorie de Barthes dans la chambre Pierre, mais plus généralement la théorie les théories indicielles des années 80 sur la photographie. Et je trouve ça assez fascinant que Hugo, qui est contemporain de la naissance de la photographie, Audi Berti du cinéma, des débuts du cinéma, ont à cœur de, comme ça, lester de réalité et de matérialité le texte même. Au point que, alors, il y a une. Par exemple, dans Les Contemplations, Florence Nogrette fait une très belle lecture de Mes deux filles, hein, comparée à une photographie, hein, c'est une lecture assez classique et très belle. Mais il me semble que ce que fait Hugo avec Mes deux filles, c'est mieux qu'une photographie, finalement. Et comme j'ai l'impression que Audi Berti, avec Les belles rencontres, il veut faire mieux que le cinéma. Et que il y a quelque chose, même s'il aime le cinéma, même si quand on lit son scénario, il y a une attention visuelle, évidemment, à... on sent qu'il est, que c'est un spectateur, que c'est un cinéphile. Mais il n'écrit pas pour le cinéma de la même manière que quand Baratier va lui demander de faire le scénario de la poupée, et que là, il va falloir vraiment faire un découpage technique et vraiment faire un texte pour le cinéma, il fait autre chose. Et c'est plutôt, je trouve, dans Les belles rencontres, comme si la littérature et le dessin, je ne vous ai pas montré une page de ce scénario, parce que ce qui est très beau dans ce scénario, c'est que écriture et dessin se composent ensemble, se répondent ensemble, mais c'est comme s'ils pouvaient aussi absorber le cinéma. Et de la même manière, je me suis fait la réflexion en lisant Miroir, quand même. Je me suis dit déjà, pourquoi ce texte s'appelle Miroir ? Et ensuite, j'avais la sensation que, quand il parle du dactylogramme, c'est comme s'il parlait presque d'un instantané photographique, de l'écriture en elle-même qui serait figée sous une certaine forme. Et il dit que même le papier, l'encre, lui rappelle les souvenirs exactement de cette période-là, exactement comme s'il se retrouvait face à un cliché de lui d'une autre époque. C'est tout le texte, avec ses mots-objets, avec ses collages, avec ce rapport à l'encre et au papier, qui se charge donc de ce rapport très fort à la référentialité. Voilà. Donc, pour conclure, je voulais montrer à travers cette communication que Audi Berti, déjà peut-être sur ce point-là, est presque même plus hugolien qu'il le pensait. Enfin, en tout cas, que là-dessus, il y a, sur la matière alphabétique, ça m'a beaucoup frappé. Les échos qu'on pouvait trouver avec Hugo. J'ai aussi été frappée ce matin quand vous avez fait votre communication, Agnès Sandras. Vous avez montré un moment, un passage où il parle de Zola, et il y a exactement les mêmes termes. Il dit une chemise brille ou orange avec le nom Zola, et il fait exister vraiment l'objet texte. Et ça, pour moi, ça éveille beaucoup d'échos avec Hugo. Et c'est intéressant de voir cette tradition matérialiste, romantique, mais qui en réalité prend ses sources dans la Renaissance, qui vient traverser comme ça le XXe siècle, et qui, à mon avis, amène quelque chose d'assez différent d'autres approches de l'abstraction, et notamment de l'approche des lettristes contemporains d'Audi Berti.